Les cours du Collège de France, Didier Fassin, chaire questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons procéder comme d'habitude. Il y aura deux leçons qui seront séparées d'une quinzaine de minutes. Et puis, un séminaire à 16h30 qui vous donnera l'occasion d'entendre Stéphanie Latabdallah, qui est une directrice de recherche au CNRS et qui est spécialiste du Moyen-Orient et qui parlera des questions d'enfermement, d'emprisonnement en Israël sur la base de travaux qu'elle conduit depuis longtemps. La dernière fois, plusieurs d'entre vous étaient venus me voir à la pause en me disant que certains noms ne leur étaient pas familiers et que et je m'étais engagé à vous fournir une bibliographie et des références précises. Et donc, si vous allez sur le site, à la page qui est consacrée à ce cours, eh bien, vous trouverez les références pour l'ensemble de cet enseignement. Donc vous pourrez, si vous avez mal écrit un nom ou si vous cherchez une référence, vous pourrez les retrouver facilement en téléchargeant ce document qui donc est en accès libre. Et en complément de cela, j'avais mentionné la dernière fois que les cours, comme vous le savez, sont également en ligne quelques jours après avoir été présentés. J'ajoute, je ne l'avais pas fait à ce moment-là, mais j'ajoute que au mois de septembre sortira un livre qui s'appelle Leçons de ténèbres et qui reprend pour une large part les éléments de ce cours. Donc il y aura une version écrite et publiée à la découverte en septembre. Dernière chose, pour les étudiantes et les étudiants qui sont en master et qui ont besoin de valider cet enseignement, ce qui n'est pas le cas de toutes et tous, il y aura un document des démargements qui sera sur la table tout à l'heure à la pause, donc vous pouvez le signer. Voilà pour les petites annonces. La violence a donc été ignorée, nous l'avons vu, pendant le premier siècle de l'existence de l'anthropologie et de la sociologie, ou plus exactement, elle n'a pas été traitée en tant que telle, n'a pas fait l'objet d'entrées spécifiques dans les encyclopédies et les dictionnaires de ces disciplines, n'a pas donné lieu à des travaux empiriques ou théoriques se réclamant explicitement de son étude. Cette absence était d'ailleurs d'autant plus remarquable, et je l'ai dit la fois passée, que le XXe siècle avait été marqué par deux guerres mondiales et une guerre froide, des génocides et des totalitarismes, des révoltes paysannes et des désordres urbains, des libérations nationales africaines et des dictatures latino-américaines, un apartheid en Afrique du Sud, une Nakba en Palestine, une purge massive des 10 ennemis du peuple en Union soviétique et une révolution culturelle contre les présumés révisionnistes en Chine, une répression brutale du mouvement des droits civiques aux États-Unis et des manifestations algériennes pacifiques en France, la liste pourrait être encore allongée. Dans le cas des anthropologues qui travaillaient alors principalement dans les sociétés qu'on a appelées primitives puis traditionnelles, il y avait non seulement les guerres entre ethnies ou clans rivaux, qu'on qualifiait souvent de tribales, mais aussi et surtout les violences coloniales et les soulèvements populaires noyés dans le sang. Dans le cas des sociologues, dont l'activité se déroulait généralement dans les zones urbaines des sociétés industrialisées, il y avait bien sûr les phénomènes de criminalité organisée ou non, mais également des aspirations révolutionnaires et des grèves ouvrières, souvent brisées sans ménagement. Comme l'écrit Hannah Arendt dans son essai de 1969 « On Violence », il n'est personne qui, s'intéressant à l'histoire et à la politique, puisse ne pas être conscient du rôle majeur joué par la violence dans les affaires humaines, et il est donc à première vue surprenant que la violence ait été si rarement reconnue comme méritant une considération particulière. Fin de citation. Pour expliquer ce silence autour de la violence, j'ai invoqué une épistémologie de l'ignorance, Mais il y a d'autres raisons, peut-être plus profondes et importantes à identifier, car elle continue de poser légitimement des problèmes aux anthropologues et aux sociologues. Et ces raisons sont au moins au nombre de deux, je les qualifie provisoirement de morale et méthodologique. Morale, la violence suppose toujours un regard normatif, un rejet, une répudiation. En somme, le jugement négatif rend impossible l'objectivité supposée nécessaire au travail scientifique. Et méthodologique, elle échappe à la construction d'un objet homogène, observable, comparable. En somme, l'existence d'expressions de la violence sans lien les unes avec les autres empêche toute généralisation. Mais il faudra leur adjoindre une autre difficulté de nature théorique. La violence se dérobe aux tentatives de la définir de manière univoque. Première raison, donc, morale. Le livre pionnier d'anthropologie de la violence en langue anglaise est publié en 1986 sous la direction de David Riches, avec simplement pour titre « The Anthropology of Violence », l'anthropologie de la violence. Dans son introduction, le coordonnateur de l'ouvrage explique d'emblée la difficulté posée par l'étude de la violence. On demande souvent aux chercheurs en sciences sociales, dit-il, d'éviter tout jargon et de privilégier le langage ordinaire. Or, le lexique du sens commun est à la fois inscrit dans des contextes particuliers et porteur d'implications enfouies, ce qui le rend peu propice à l'usage savant, lequel doit construire son propre vocabulaire de concepts. Et je le cite, « En raison notamment des émotions qu'il provoque, le mot « violence » se situe au sommet de la liste des termes qui présentent un danger de ce double point de vue. En effet, poursuit-il, violence connote fortement un comportement illégitime et inacceptable. Affirmation problématique cependant, car il faudrait se demander illégitime et inacceptable pour qui ? Car dans la guerre ou même la vengeance, pour certains groupes ou certains gouvernements, la violence paraît légitime et acceptable pour une part des protagonistes. Mais si l'on s'en tient à l'analyse de David Riches, le problème serait donc que la notion de violence procède d'un jugement sur les faits, et en l'occurrence d'un jugement défavorable. Dès lors, parler de violence serait renoncer à l'impartialité que chercheuses et chercheurs devraient faire prévaloir dans leurs enquêtes. Et ce serait particulièrement le cas pour les anthropologues qui peuvent être confrontés à des situations ou des événements qui leur semblent violents alors qu'ils ne sont pas considérés tels dans les sociétés concernées ou par les agents impliqués. À la différence d'objets comme la parenté, la religion, la sexualité, l'école, l'État, qu'il serait possible de nommer de manière objective, et j'ai mis un conditionnel, la violence serait, elle, frappée d'emblée d'une forme de subjectivisme. On peut noter qu'il faudrait alors également renoncer à parler de crime, d'inégalité, d'anthropophagie et même certainement d'inceste, cette catégorie présumée fondatrice de l'Alliance. Il ne s'agit pas de nier que la notion de violence comporte une dimension morale, qu'elle suppose une interprétation à la fois des protagonistes et de l'observateur, et qu'elle puisse donc faire l'objet de discussions et de désaccords. Mais n'est-ce pas ce qui devrait s'imposer pour tout travail scientifique, ce qu'on appelle une démarche critique, qui s'applique à tous les objets qu'on étudie? Le statut de la parenté comme concept central de l'anthropologie servant d'initiation au métier ne mériterait-il pas, lui aussi, d'être interrogé, comme l'a fait l'anthropologue états-unien David Schneider dès 1984 dans « A Critique of the Study of Kinship », une critique de l'étude de la parenté, en montrant qu'il s'agissait là d'une manifestation d'ethnocentrisme éloignée de la réalité des sociétés étudiées. La catégorie de religion, servant à circonscrire des croyances et des rituels dans le domaine symbolique et le registre textuel, ne justifierait-elle pas également d'être questionnée, comme s'y est employé l'anthropologue d'origine saoudienne Talal Assad en 1993 dans « Genealogies of Religion »,« Généalogie des religions », en soulignant qu'il s'agissait là de l'application d'une pensée libérale qui ignorait la signification de pratiques profondément ancrées dans la vie quotidienne. Que la notion de violence ne doive pas être prise pour argent comptant est donc une vérité d'évidence qui vaut pour toute notion mobilisée dans les sciences sociales. C'est même ce qui en fait l'intérêt. Qu'elle donne lieu à interprétation et donc à désinterprétation, n'est-ce pas là ce qui est au fondement de la pratique de ces disciplines, selon la thèse fameuse de Clifford Geertz dans « The Interpretation of Cultures », l'interprétation des cultures, qui a irrigué la recherche bien au-delà de l'anthropologie. Le recours à la notion de violence implique donc une forme de jugement, mais ne récuse pas l'analyse. Dans un court texte de 1995, le philosophe Jean-Luc Nancy l'exprimait simplement. Je le cite, « Il y a aujourd'hui une question de la violence qui n'est pas simplement une question externe, ouvrant sur la résistance éthique et politique aux violences effectives, ce qui en définitive n'en fait pas une question mais plutôt un consensus, le plus souvent doublé d'une impuissance, mais aussi une question interne, à savoir quelque chose de la violence ou de ce qui est trop rapidement classé sous l'unique terme de violence reste à penser par-delà son évidente condamnation. L'essence de la violence n'est sans doute pas épuisée par sa réprobation. » Fin de citation. Son propos comporte donc deux parties. La question externe, à savoir le fait d'une résistance éthique et politique à l'exercice de la violence, et la question interne, à savoir le fait que la violence demeure bonne à penser. On peut souscrire à la seconde, mais il faudra mettre à l'épreuve la première, car il ne va pas de soi que le rejet de la violence fasse l'objet d'un consensus, comme on le montre dans des registres très différents. Le succès populaire des arts martiaux mixtes extrêmes de l'Ultimate Fight Championship aux États-Unis, la normalisation de l'usage de la brutalité au sein de la police en France, ou le soutien massif à la destruction de Gaza dans des sondages d'opinion en Israël. Deuxième raison, méthodologique. Le travail pionnier en matière de regard anthropologique sur la violence en France a été conduit dans le cadre d'un numéro spécial de la revue Études rurales, coordonnée en 1984 par trois anthropologues du CNRS et de l'EHESS, Gérard Lenclude, Elisabeth Clavry et Jean Jamin, qui l'introduisent par une question radicale. Une ethnographie de la violence est-elle possible ? À cette question, Gérard Lenclude semble apporter une réponse positive. Je le cite, « Si l'on fait l'hypothèse qui ne paraît pas déraisonnable, qu'aucune société ne l'ignore, que chacune s'attache à désigner comme violent certains comportements à l'exclusion d'autres, leur confère ou non un sens et une fonction et les sanctionne selon des procédures qui lui appartiennent en propre. » Fin de citation. On peut douter de cette universalité hâtivement affirmée, car si toutes les sociétés ont imaginé des sanctions pour des violations des normes et des règles, rien n'indique que la violence ou que toutes les violences entrent nécessairement dans le cadre de ces violations. D'ailleurs, l'auteur lui-même souligne un peu plus loin que, je le cite, « la violence ne se donne pas d'emblée pour telle, sa spécification résulte d'une procédure toujours ouverte de qualification, et tout semble se passer comme si la notion de violence, chargée de représentations composites, référait à des phénomènes de nature très différente. » Fin de citation. Et il en déduit qu'au contraire de phénomènes sur l'identité desquels un consensus minimum s'est établi, comme l'économie, le politique, la religion, ou de notions au moins partiellement construites, telles que la puissance, la domination, la contrainte, la violence, elle, je le cite, ne paraît pas à première vue susceptible de circonscrire une classe de faits à observer et à interpréter un champ de recherche en somme. Fin de citation. Par conséquent, faut-il, en suivant Gérard Lenclude, retenir l'hypothèse non déraisonnable, comme il le dit, que toutes les sociétés connaissent la violence, ou plutôt l'idée contraire, toujours dans son propos, qu'on ne peut circonscrire une classe de faits correspondant à une même réalité de la violence. La question n'est donc pas tranchée pour lui et donne lieu à des réponses différentes de la part des deux autres responsables du dossier. Pour Elisabeth Clavry, Quand on sollicite des ethnologues sur ce thème, je la cite, « chacun sait bien ce que violence veut dire et est à même de la reconnaître sous des formes extrêmement diverses dans différentes sociétés étudiées, peut-être parce qu'il en a l'expérience dans l'univers dont il est lui-même indigène. » Fin de citation. La production de cette connaissance ethnographique semble donc hésiter entre ce qu'on désigne souvent comme de l'émique, c'est-à-dire le point de vue de la société concernée, et de l'éthique, sans H, c'est-à-dire le point de vue de l'observatoire, de l'observateur. C'est à partir de leur propre regard sur la violence que les chercheurs la reconnaissent, au moins autant qu'à partir du discours ou des attitudes de celles et ceux qu'ils étudient. Je la cite encore, dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une construction théorique à la différence, encore une fois, de la religion ou de la parenté, et on remarque ici la récurrence d'objets trop facilement vus comme non problématiques, car en fait non problématisés ou insuffisamment, la violence, poursuit-elle, fait ressurgir la plupart des questions à la fois les plus centrales et les plus indécidables de l'anthropologie, relativisme culturel ou universaux, rapport aux valeurs et neutralité de l'observateur, statut de la règle et de sa transgression. Telle est en effet, il faut le redire, non pas une faiblesse, mais la force d'une recherche sur la violence, le fait qu'elle pose à nouveau frais des questions qu'on a parfois un peu trop vite imaginées, résolues. Les monographies réunies par les responsables du dossier, qui vont des conduites d'évitement de la conflictualité dans les sociétés rurales tahitiennes et siciliennes, à la socialisation dans l'affrontement physique des lobbies du Burkina Faso et des Yanomami du Venezuela, des batailles de chiffonniers de la banlieue parisienne au rixe d'ivrogne des populations arctiques, invitent à penser la richesse et la diversité des formes de violence, au point de se demander, comme le fait encore Elisabeth Claverie, si cette dernière ne constitue pas plus une ressource pouvant donner lieu à un nombre considérable d'usages différents qu'un phénomène en soi. On le voit, toujours cette indécision et hésitation. De son côté, Jean Jamin paraît plus radicalement dubitatif sur ce que les anthropologues peuvent tirer de telles enquêtes. Je le cite, « À supposer que la violence soit utile parfois, bien plus, soit belle à vivre et ou à regarder, il ne s'ensuit pas qu'elle soit bonne à penser. » Fin de citation. Car pour lui, elle se situe en dehors du territoire de la raison et plus encore, elle est une affaire d'interprétation ou à la limite affaire de point de vue. Singulière réserve cependant, car quel objet étudié par les sciences sociales n'implique pas une interprétation et quelle description ne suppose pas un point de vue, celui du descripteur. La violence, à cet égard, n'a rien d'exceptionnel pour l'anthropologue. Il n'en est cependant pas moins vrai qu'elle représente un fait social particulièrement sensible à la question du regard, pour parler comme Michel Foucault dans La naissance de la clinique. Je cite encore Jean Jamin, « L'ethnographe peut être amené à considérer comme absolument violent des actes ou des formes de domination que la société d'où il vient réprouverait et réprimait, mais qui, ici, se trouve au contraire valorisée, sinon désirée. » Il en donne pour exemple la vendetta et l'excision. Au-delà cependant de l'enjeu du relativisme qui se trouve une fois encore convoqué, moins en l'occurrence sous sa forme morale qui reviendrait à ne pas condamner ce qui est localement accepté que sous sa forme culturelle qui correspond simplement à la reconnaissance des différences de perspective entre l'enquêteur et l'enquêté, c'est la possibilité d'observer la violence qui s'avère souvent difficile, voire impossible, soit parce que la présence du chercheur l'expose à un danger, soit parce que les faits se sont produits en son absence, ne lui laissant alors que l'option de travailler sur des récits recueillis ou des documents judiciaires. Double problème donc pour l'anthropologue, puisque d'une part, sa manière de circonscrire la violence peut différer de celle de la société étudiée, et d'autre part, sa présence sur le terrain peut ne pas correspondre à la survenue de la violence. En somme, une ethnographie de la violence est pour Elisabeth Claverie possible, et la collection de textes qu'elle a réunis en fait foi, tandis qu'elle est pour Jean Jamin impossible, car son objet n'est ni rationnel, ni interprétable, ni observable. L'une et l'autre sont toutefois d'accord pour considérer que la violence se dérobe à l'analyse des sciences sociales. Elle n'existe pas en tant que telle, elle est toujours une affaire de contexte. Elle renvoie à autre chose, une histoire, une organisation sociale, une doctrine religieuse, une idéologie politique, une vision du monde. Mais pour qui cherche à étudier la violence, il est une autre complication, peut-être même plus préoccupante encore que celle que je viens d'analyser, car même depuis la perspective de celles et ceux qui ne doutent pas de son existence, il est difficile de savoir ce qu'elle est. On ne parvient pas à la définir, on n'arrive pas à la délimiter. La tâche consistant à conceptualiser la violence est difficile, écrit l'anthropologue indienne de l'université Johns Hopkins Vina Das dans un bref article de 1987 de la revue Anthropology Today. Comme en écho, presque deux décennies plus tard, les anthropologues états-uniens de l'université de Californie, Nancy Shepherd Hughes et Philippe Bourgois, dans leur anthologie « Violence in War and Peace »,« Violence en temps de guerre et de paix » de 2004, affirment à leur tour « La violence défie toute catégorisation facile. Elle peut être tout et rien, légitime et illégitime, visible ou invisible, nécessaire ou inutile, insensée et gratuite ou parfaitement rationnelle. » et stratégique. Alors, entre ces deux publications que je viens d'évoquer, en 1995, au début de son séminaire du Collège de France, intitulé précisément « De la violence », Françoise Héritier risque pourtant une définition. Appelons « violence » toute contrainte de nature physique ou psychique susceptible d'entraîner la terreur, le déplacement, le malheur, la souffrance ou la mort d'un être animé. Tout acte d'intrusion qui a pour effet, volontaire ou involontaire, la dépossession d'autrui, le dommage ou la destruction d'objets inanimés. Par rapport à la conception souvent implicite qu'en avaient David Riches et les auteurs du volume collectif The Anthropology of Violence, ou encore Gérard Lanclude, Elisabeth Clavry et Jean Jamin, ainsi que les contributeurs du dossier Études rurales, le spectre au sens physique du terme de la violence s'est considérablement étendue dans cette définition de Françoise Héritier. Elle portait presque exclusivement sur la matérialité des corps, elle est désormais physique et psychique. Elle concernait essentiellement les relations entre les humains, elle inclut dorénavant les animaux et les objets, en oubliant d'ailleurs peut-être la nature. Pour l'anthropologue de l'École des hautes études en sciences sociales, Michel Naples, cependant, on peut questionner la définition extrêmement englobante de Françoise Héritier, car est-il légitime, écrit-il, de rassembler les objets inanimés, les animaux et les humains dans un même registre d'expérience? Cette question ouvre en fait une passionnante triple réflexion philosophique, anthropologique et empirique. Réflexion philosophique d'abord, qui lie la violence et l'expérience, avec entre les deux la médiation de la souffrance infligée, qui est l'expérience de la violence. Les êtres humains sont-ils les seuls à avoir cette expérience? Dans son introduction au principe de morale et de législation de 1789, le philosophe et juriste anglais Jeremy Bentham mettait en cause les mauvais traitements réservés aux animaux, comme c'était aussi le cas, ajoutait-il, pour les esclaves. Que se passerait-il, interrogeait-il, si au lieu de se demander si un cheval ou un chien peuvent raisonner ou parler, deux activités qui les différencient des êtres humains, on se demandait s'ils peuvent souffrir, ce qui les en rapprocherait. Cette analyse a ouvert la voie à l'approche du bien-être animal dont le champion est aujourd'hui le philosophe australien utilitariste de l'université de Princeton, Peter Singer. Réflexion anthropologique ensuite, dont l'un des déplacements les plus significatifs au cours des deux dernières décennies a été le décentrement de l'humain, descendu de son piédestal en quelque sorte, dans le cadre d'une approche ontologique telle que défendue notamment par Philippe Descola dans le cadre de sa chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France, et prolongée aujourd'hui à travers une démarche ethnographique comme celle de l'anthropologue français Charles Sepanoff. Ces travaux accordent toute leur importance aux êtres vivants non humains, dans le règne animal, mais aussi végétal, qui se trouve donc inclus dans le champ de la violence. Et enfin, réflexion empirique, qui se nourrit notamment de l'étude des opérations de colonisation qui, en Cisjordanie, depuis des décennies, impliquent des attaques contre les habitants, des abattages de cheptels, des arrachages d'oliviers, des spoliations de terres, et qui, à Gaza, se sont prolongées au cours de la période récente par la destruction des habitations, des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des églises, des musées. Illustration extrême de la manière dont la violence peut se manifester contre l'ensemble des êtres vivants et les entités matérielles. Donc, de ces trois réflexions, on peut tirer que la philosophie utilitariste avait permis de reconnaître la violence contre les animaux, l'analyse anthropologique l'a élargie à l'ensemble du monde animé, et l'enquête empirique lui a ajouté le monde inanimé. Alors, si cette extension a pu être parfois critiquée pour réduire la place de l'humain, ce qu'elle est censée faire, il faut pourtant reconnaître que bien souvent, qu'il s'agisse des mauvais traitements infligés aux animaux ou des dommages causés à la nature, ce sont aussi des femmes et des hommes qui en souffrent. Le domaine de la violence s'est ainsi considérablement étendu à mesure que les anthropologues cherchaient à mieux l'appréhender. Il n'est plus seulement ce noyau dur dont parlait le démographe français de l'INED Jean-Claude Chesnais dans son Histoire de la violence en Occident, à savoir l'usage excessif de la force physique par des êtres humains sur d'autres êtres humains. Il concerne le corps et l'esprit, il affecte tout ce qui est doté de vie et même ce qui ne l'est pas. Dans ce mouvement d'expansion, les sociologues n'ont cependant pas été en reste. Deux d'entre eux ont conceptualisé d'autres formes de violence, moins immédiatement perceptibles, car n'impliquant pas la présence de l'auteur intentionnel d'une agression. Johann Galtung, avec la violence structurelle, et Pierre Bourdieu, avec la violence symbolique. Le concept de violence structurelle a été proposé par le sociologue norvégien de l'Université d'Oslo, Johan Galtung, fondateur des études sur les conflits et la paix. Dans un article célèbre de 1969, Violence, Peace and Peace Research, la violence, la paix et la recherche sur la paix, il caractérise la paix comme l'absence de violence, ce qui le conduit à définir ce qu'on doit entendre par violence. Il faut s'écarter, explique-t-il, du concept étroit qui la limite à sa dimension somatique, physique, et suppose l'intention d'un acteur. Car si la paix était alors ainsi conçue, comme sa négation, elle deviendrait compatible avec des ordres sociaux tout à fait inacceptables. Un concept étendu s'avère donc indispensable selon lui. La violence s'exerce lorsque des êtres humains ne se réalisent pas physiquement et mentalement comme ils devraient le pouvoir du fait de facteurs qui ont sur eux une influence négative. Les deux éléments essentiels de cette définition élargie sont d'une part, l'écart entre le potentiel et l'effectif, entre la réalisation de soi telle qu'elle pourrait être et telle qu'elle est de fait, et d'autre part, l'influence négative qui n'implique pas la présence d'un individu ou d'un groupe la mettant en œuvre, mais l'existence de structures sociales qui, ces structures sociales, limitent l'accès à des ressources nécessaires à l'accomplissement d'une vie bonne. L'exemple que donne Johan Galtung est le suivant. Quand une personne mourait de tuberculose au XVIIIe siècle, on ne pouvait considérer cette situation comme relevant d'une violence, car c'était là une évolution inévitable compte tenu du savoir médical de l'époque. Mais si une personne meurt aujourd'hui de cette maladie, alors qu'on dispose des médicaments permettant de la traiter, alors on peut parler, selon lui, de violence. Ainsi caractérisée et illustrée, la violence structurelle procède, dit-il, d'une injustice sociale pour laquelle il n'est besoin ni d'identifier un coupable, malfaisant, ni de supposer une intention maléfique. On peut dire que c'est l'ordre social qui est en cause du fait de l'inégalité qu'il crée et qui le constitue. Les victimes de la violence structurelle sont les personnes pauvres, discriminées, rabaissées. Les responsables sont en revanche plus difficiles à définir, ce sont celles et ceux qui contribuent à la production et la reproduction des inégalités. Ce concept a connu un développement considérable dans les sciences sociales de langue anglaise, avec notamment le travail de l'anthropologue états-unien de l'Université de Harvard, Paul Farmer, qui en a fait la matière de sa Sidney Mintz Lecture en 2001, en l'appliquant aux épidémies de sida et de tuberculose en Haïti. Il montre ainsi comment, pour comprendre la manière dont la population de l'île a été tragiquement touchée par ces infections, il est nécessaire de prendre en considération son histoire sociale et son économie politique. Une part importante de la prospérité de la France à la fin du XVIIIe siècle tient à la fois à la traite négrière et à la production sucrière. La colonie de Saint-Domingue est au carrefour de ces deux sources de richesse, étant la plus florissante de toutes les colonies détenues par les puissances européennes. Après la Révolution, qui au prix de dizaines de milliers de morts a permis en 1804 la libération des esclaves et la création de la première République noire au monde, mais qui a condamné le pays à se retrouver au banc des nations occidentales, la France a fini par reconnaître sous Charles X l'indépendance d'Haïti, moyennant le paiement d'une indemnité exorbitante censée dédommager les anciens colons pour les pertes subies, mais visant en réalité à punir les Haïtiens en les rendant pour longtemps dépendants. Les ressources de l'île étant en effet très insuffisantes au regard de la somme exigée, il lui faut alors faire appel à des banques françaises pour s'acquitter de ce qu'on appelle la double dette d'Haïti, à savoir la réparation et l'emprunt. Si la première est réglée à la fin du XIXe siècle, la réparation, le remboursement du second, l'emprunt, court jusqu'au milieu du XXe siècle, pesant lourdement sur le budget de l'État haïtien, dont à partir de 1915, la situation est encore aggravée pendant deux décennies par l'occupation des États-Unis, qui pillent les fonds publics de la Banque nationale et utilisent les ressources de l'île pour rémunérer ses fonctionnaires. Ruiné donc par les pays occidentaux, à commencer par la France, et miné par la corruption, en particulier sous la dictature des Duvaliers, Haïti est aujourd'hui le pays le plus pauvre et le plus instable du continent américain. Dans les années 1980, le tourisme sexuel gay depuis les États-Unis et la prostitution dite de survie, l'un et l'autre liés à la pauvreté, y favorisent la propagation du sida, qui à son tour aggrave la dissémination de la tuberculose, la progression de ces deux infections se trouvant encore accélérée par le déficit de services publics, notamment dans le domaine de la santé. Il faut se souvenir qu'à l'époque, dans les années 80, être haïtien est considéré dans la littérature médicale comme un facteur de risque. On parle alors des 4 H, à savoir les homosexuels, les héroïnomanes, les hémophiles et les haïtiens, comme si ces derniers présentaient des singularités biologiques ou comportementales qui en faisaient des vecteurs de l'infection, comme s'ils n'étaient pas avant tout victimes de la violence structurelle qui avait accablé depuis 2 siècles leur pays. Ce qui conduit Paul Farmer à conclure, je le cite, que la distribution du sida et de la tuberculose, comme celle de l'esclavage autrefois, est historiquement et économiquement déterminée et qu'elle est en relation avec le racisme, l'inégalité genrée et la pauvreté massive. Et bien qu'il n'utilise pas ce terme, on subsumerait aujourd'hui ces 3 dimensions sous le concept d'intersectionnalité. Un renouvellement de la pensée sur la violence s'est donc opéré avec l'introduction de la violence structurelle. Il n'est plus question du geste agressif d'un individu ou d'un groupe contre un autre individu ou un autre groupe, voire contre des êtres animés ou des entités inanimées, mais du poids des inégalités qui traversent et hiérarchisent la société. On n'est plus dans l'immédiateté de l'acte, mais dans l'empreinte de l'histoire. Le corps, pourtant, dans sa dimension à la fois physique et psychique, n'a pas disparu, car la violence structurelle altère les organes, produit des maladies, favorise des homicides et des suicides, entraîne une augmentation des décès de toutes causes. Une enquête réalisée au début des années 1980, autrement dit avant même le début de l'épidémie de sida, et publiée dans la prestigieuse revue médicale The New England Journal of Medicine, révélait que le taux de mortalité ajusté à l'âge était 2 fois plus élevé parmi les habitants du centre de Harlem qu'au sein de la population blanche des États-Unis, et que les chances d'atteindre son 65e anniversaire étaient plus faibles pour les hommes noirs de ce quartier de New York que chez les hommes résidant au Bangladesh, choisi comme exemple de l'un des pays les plus pauvres du monde. Pour l'essentiel, l'excès de mortalité dans cette étude était dû non pas, contrairement à ce que le sens commun pouvait imaginer, aux homicides et aux drogues, qui ne se situaient qu'au 3e et 5e rang des causes de décès, respectivement, mais plus banalement, aux maladies cardiovasculaires et aux cirrhoses du foie. Dans leur analyse, les auteurs ne citaient certes pas la violence structurelle, peu discutée alors, mais évoquant le niveau de disparité sur un territoire urbain où plus de 19 résidents sur 20 se situaient au-dessous du seuil de pauvreté, ils assimilaient la situation aux conséquences d'une catastrophe naturelle. Ils auraient pu aussi bien la comparer aux effets d'une guerre civile ou d'un conflit international. C'est dire que la violence structurelle, comme la violence directe, détruit des vies, et souvent de manière plus massive encore. Cependant, aussi heuristique soit-il, puisqu'il établit que dans la plupart des sociétés, les inégalités tuent plus que les brutalités, le concept de violence structurelle pose au moins deux problèmes pour les sciences sociales. Premièrement, la définition qu'en donne Johann Galtung est tellement large qu'elle inclut toutes les situations de perte de chance, puisqu'elle fait référence à tout élément générant un écart entre la réalisation de soi potentielle et la réalisation de soi effective, ce qui la rend malaisée à mettre en œuvre concrètement. Et deuxièmement, l'utilisation qu'en fait Paul Farmer se heurte à la difficulté qu'il y a à établir empiriquement le lien causal exact entre l'histoire sociale et l'économie politique, d'une part, l'incidence des maladies et l'espérance de vie, d'autre part, et en démontrer le mécanisme précis, ce qui rend l'administration de la preuve délicate. Néanmoins, l'introduction de ce concept permet une ouverture vers une forme de violence occultée par les pouvoirs, malgré ses effets funestes sur les corps. Tel est aussi, quoique d'une façon bien différente, le cas en ce qui concerne la violence symbolique qui est associée au nom de Pierre Bourdieu. Associée car s'il est vrai qu'il l'a abordée et développée presque tout au long de son œuvre, y compris dans ses cours au Collège de France, le concept apparaît d'abord dans la reproduction, étude qu'il a de fait co-signée avec le sociologue français Jean-Claude Passeron. L'ouvrage qui porte sur le système d'enseignement et le rapport pédagogique propose selon les auteurs, je les cite, une théorie générale des actions de violence symbolique et des conditions sociales de cette violence. Le livre est construit à la manière de l'éthique de Spinoza avec des axiomes formels suivis de scoli qui les expliquent ou les commentent. Le premier de ces axiomes énonce, dans un style immédiatement reconnaissable par ses effets de répétition, ce que les auteurs affirment être, je les cite, un principe de théorie de la connaissance sociologique, autrement dit un fondement de leur épistémologie. Tout pouvoir de violence symbolique, c'est-à-dire tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force, ajoute sa force propre, c'est-à-dire proprement symbolique, à ses rapports de force. Exprimé plus simplement, la violence symbolique expose comment les dominants parviennent à obtenir l'adhésion des dominés à leur domination sans user de la contrainte ou de la menace, uniquement si l'on peut dire, en imposant par des effets de sens et de langage le caractère évident de cette domination. Elle consiste en une naturalisation des rapports de pouvoir et de savoir par laquelle dominants et dominés, partageant les mêmes instruments de perception et de cognition, peuvent considérer comme allant de soi, et donc légitime, la relation inégalitaire entre eux. Elle est donc symbolique, car elle se situe dans l'ordre des significations, par lequel le dominé fait sens de sa position et de sa condition dans les termes établis par le dominant qui les lui fait accepter comme justifiés. Et elle est une violence, car elle entraîne diverses souffrances psychiques, telles que dévalorisation de soi, honte des siens, disqualification, culpabilisation, anxiété, marginalisation, isolement, qui peuvent avoir un retentissement physique sous la forme de gêne, de maladresse, de bredouillement, de tremblement, de rougissement, d'énervement, de réaction inappropriée, faute de maîtrise des codes, tous éléments qui entretiennent, aggravent et in fine légitiment la relation de domination. L'école est typiquement, selon Pierre Bourdieu, l'institution où le corpus enseigné et les modalités de sa transmission reproduisent d'une part les classifications et les hiérarchies du savoir en valorisant ces formes les plus abstraites qui ont cours dans les catégories sociales supérieures, et d'autre part, des manières de discipliner les élèves par des systèmes de notation, de compétition et de punition qui leur inculquent, tout en la légitimant, leur place dans le système scolaire qui sera plus tard aussi leur place sur le marché du travail. Mais pour lui, la violence symbolique traverse l'ensemble de la société et non seulement l'école. En particulier, la domination masculine, à laquelle il consacre ultérieurement un article puis un ouvrage, en s'appuyant notamment sur ses enquêtes menées 40 ans plus tôt dans la société kabyle, procède de logiques similaires par lesquelles les rôles, les activités, les attitudes, les pratiques des hommes et des femmes sont à la fois déterminés par les représentations sociales sur les relations de genre et d'autant plus facilement essentialisés qu'ils paraissent inscrits dans la différenciation supposée naturelle entre les sexes. Ainsi conçue, la violence symbolique permet de comprendre la reproduction de l'ordre social qui se fait le plus souvent sans heurts, par un consentement à la domination, différent toutefois de la servitude volontaire telle qu'elle avait été décrite au XVIe siècle par Étienne de la Boétie, qui est une soumission consciente à la tyrannie. La violence symbolique est au contraire ni volontaire, ni consciente, mais opère par une sorte de complicité, c'est le terme qui est employé par le sociologue, qui peut être active ou passive, dont les dominés ne se rendent pas compte et qu'ils subissent donc à leur insu, parce qu'ils n'ont pour la pensée que l'espace de sens fourni par les dominants. Comme l'écrit le sociologue français Gérard Mauger dans un article consacré à ce concept, on peut voir une parenté avec les théories des pères de la sociologie, ce que Pierre Bourdieu revendique d'ailleurs, tout en affirmant s'en distancier. On pense bien sûr à la théorie de l'idéologie, chez Marx et Engels, pour lesquelles les classes dominantes parviennent à imposer une pensée dominante opérant comme vecteur de la domination, laquelle apparaît légitime aux classes dominées, ce qui sera repris ultérieurement dans l'école de Francfort, notamment par Gyorgy Lukács, à travers le concept de fausse conscience, qui était beaucoup utilisé ces dernières années. On pense également à la théorie du conformisme, dans l'œuvre de Durkheim, qui s'intéresse à l'obéissance passive des individus aux normes et aux règles, qu'il s'agisse de religion ou de morale. On pense enfin à la théorie de la domination de Weber, qui explique comment les agents obéissent à un ordre social auquel ils accordent une légitimité reposant sur la force de la tradition, sur une relation affective ou encore sur une reconnaissance rationnelle ou légale. Ce qui donne cependant son originalité à la violence symbolique par rapport à ces théories que je viens de mentionner, qui au fond cherchent à répondre à la même question de l'adhésion des sujets à des rapports de pouvoir par lesquels ils se trouvent subordonnés, c'est que Pierre Bourdieu ne cesse de souligner la dimension corporelle de cette violence. Bien qu'elle soit symbolique et par conséquent relève de l'imposition d'un sens donné au monde social et à la place qui occupe l'individu, comme je l'ai dit, elle se situe moins dans le domaine des idées, à la manière de Marx et Engels, des représentations, à la façon de Durkheim, ou des croyances, comme chez Weber, que dans les dispositions corporelles de l'habitus. Ce qui fait l'efficacité de la violence symbolique, pour Bourdieu, c'est qu'elle fonctionne comme une incorporation de l'ordre social. Inscrit donc dans une longue tradition de la sociologie qui s'efforce de comprendre la manière dont la domination est légitimée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la force, la violence symbolique devient ainsi le miroir de la violence physique. Le pouvoir peut s'imposer par la violence physique via l'armée, la police, mais pour se maintenir, il doit jouer de la violence symbolique par la naturalisation des rapports sociaux inégalitaires. Le fait que le concept utilise le même mot « violence » souligne le parallèle et la complémentarité entre les deux. Cette tradition, de Marx à Bourdieu, en passant par Weber plutôt que Durkheim, vise au fond à comprendre comment l'ordre social tient et se maintient, tout comme s'y employait au fond, nous l'avons vu, les fonctionnalistes et les structuralistes de l'anthropologie et la sociologie britannique et états-unienne, Malinowski et Radcliffe Brown, Parsons et Merton. Mais à l'inverse de ces auteurs, elle le fait de manière critique. Là où les concepts de fonction et de structure servaient à justifier l'ordre social, le concept de violence symbolique et avant lui celui d'idéologie montre comment cette justification est une illusion visant à le produire et à le reproduire en le légitimant. On peut toutefois s'étonner de ce que Pierre Bourdieu ne fasse jamais référence au concept d'hégémonie, central dans les cahiers de prison d'Antonio Gramsci, écrit dans les années 1920-1930, qui précisément vise à appréhender la question du consentement politique via la diffusion parmi les gouvernés de la vision du monde des gouvernants. Selon le philosophe italien, qui était à l'époque secrétaire général du Parti communiste italien lors de son incarcération par les autorités fascistes, la superstructure de la société se manifeste d'une part dans la société politique, qui se compose du gouvernement, de la justice, de la police, de l'armée, lesquels exercent le pouvoir directement, et d'autre part dans la société civile, qui comprend les écoles, les églises, les associations, les médias, les partis, par lesquels créent les conditions de cette hégémonie. Il y a donc d'un côté le pouvoir d'État, toujours susceptible de recourir à la force, et de l'autre, ce qu'il appelle des intellectuels organiques, générateurs d'une culture qui légitime l'ordre social et façonne le consensus social. Tout en cherchant à répondre à une question assez similaire, la théorie de l'hégémonie permet alors d'envisager une issue à un problème qui est posé par la violence symbolique. Car cette dernière, malgré qu'en ait Pierre Bourdieu, tente en effet à enfermer les dominés dans le cercle vicieux de la reproduction que leur imposent les dominants. Puisque l'espace de signification dans lequel il est possible de penser l'ordre social sert à légitimer la domination et à la rendre acceptable, car elle est naturelle, il est quasiment impossible à celles et ceux qui la subissent d'en sortir, ils en sont donc les prisonniers. C'est la principale critique que les chercheuses féministes ont fait au livre « La domination masculine ». Ainsi, l'historienne Michèle Perrot y voit-elle, je la cite, « une pensée claustrale à force d'être implacable, dont la rigueur consiste en la mise en ordre de matériaux soumis à la question d'une grille contraignante. » Fin de citation. Elle rappelle en particulier comment Pierre Bourdieu affirmait que les femmes peuvent difficilement écrire l'histoire des femmes car elles ont, dit-elle, une vision dominée qui ne se voit pas elle-même. Dit-elle en se référant à Pierre Bourdieu. Elle considère, par conséquent, que ce que Pierre Bourdieu propose est en fait, je la cite, « une machine avec mode d'emploi dont on se demande si elle n'est pas programmée pour une explication inéluctable. » Or, poursuit-elle ce qu'enseigne précisément l'histoire, c'est qu'elle est une intrigue ouverte, faite d'événements, de hasards, autant que de nécessités, d'inventions, d'interactions et de jeux possibles. Cette ouverture, ignorée par Pierre Bourdieu, est rendue possible par Antonio Gramsci, pour qui il n'existe pas une classe sociale d'intellectuels, mais des intellectuels dans chaque classe sociale, y compris chez les dominés, ce qui permet alors de faire émerger d'autres visions du monde que celles des dominants. Violence structurelle et violence symbolique, quelles que soient les critiques qu'on peut leur adresser, comme à tout concept qui appelle nécessairement une discussion contradictoire, ont l'immense mérite de déplacer la question de la violence, d'en dévoiler la part cachée, celle inscrite dans les profondeurs du monde social et de son histoire, celle des inégalités trouvant leur origine, si l'on veut utiliser un langage marxiste, dans l'infrastructure, c'est la violence structurelle, et dans la superstructure, c'est la violence symbolique. En réalité, les deux interagissent, puisque la violence symbolique participe de l'invisibilisation de la violence structurelle et que la violence structurelle sous-tend l'autorité de la violence symbolique. Mais du point de vue de la compréhension de ce qu'est la violence, sinon de sa définition proprement dite, ces deux formes de violence soulignent deux traits fondamentaux qui les rapprochent de la violence physique, celle qui paraît à nous tous la plus facile à saisir. D'une part, ces deux formes de violence se manifestent dans les corps, soit à travers leur altération, dans le cas de la violence structurelle, soit à travers l'habitus, dans le cas de la violence symbolique. Et d'autre part, elles provoquent une souffrance, tant physique que psychique, par la perte de chance que crée la violence structurelle et par le consentement à la domination qu'implique la violence symbolique. Le corps, comme objet sur lequel s'imprime la violence, et la souffrance, comme expérience du sujet qui la subit, voici deux traits d'union entre les formes de la violence, aussi différentes soient-elles. Et la définition, donc ? J'en ai jusqu'à présent cité plusieurs, tout en alertant sur les difficultés particulières à les réunir empiriquement, puisque des actes ou des faits peuvent être vus comme violents par certains et non par d'autres, et qu'en particulier, le problème se pose d'une différence radicale entre l'observatrice et l'observateur extérieur, qui peut voir de la violence là où les membres de la société ou bien du groupe n'en voient pas. Plutôt qu'une définition, donc, je suggère de poursuivre l'investigation en empruntant deux autres voies, celles par lesquelles on commence en général, mais qu'il m'a semblé intéressant de repousser à la fin, à savoir l'étymologie et la philologie. Que nous disent-elles l'une et l'autre de la violence ? Les étymologies grecques et latines sont très superposables, renvoyant à la même racine indo-européenne « grey », voulant dire « conquérir, forcer ». Le dictionnaire grec-français Bailly donne trois significations du mot « bia », force vitale, force du corps s'agissant des êtres humains, des animaux, des éléments naturels, avec par extension courage, vaillance. Enfin, emploi de la force, donc violence, mauvais traitement. Le dictionnaire latin-français Gaffio propose une plus grande variété de significations en distinguant le nombre du mot. Au singulier, vis, force d'un animal ou d'un élément naturel, puissance pour un être humain, pour une action, voire influence, importance, emploi de la force, voie de fait, violence, force des armes, attaque, assaut, enfin quelques autres acceptions très éloignées. Au pluriel, vires, les forces physiques d'un être animé et au figuré, la puissance, la force virile, les organes virils, et enfin les forces armées, les troupes, les soldats. Notons que malgré les apparentes similitudes orthographiques et sémantiques entre vis, pluriel vires, et vir, pluriel viri, l'homme, avec dans les deux cas l'association possible à l'idée de virilité, les deux mots n'ont pas du tout la même origine. On peut donc résumer les choses ainsi. Le mot grec « bia » et le mot latin « vis » signifient d'abord la force, celle des humains, des animaux, des éléments. Ensuite, de manière figurée, la puissance, le courage. Enfin, par extension, l'exercice de la violence, la voie de fait. Autrement dit, une énergie, une qualité et une action. Du mot latin dérive, toujours selon Gaffio, le substantif « violentia » fait de violence ou caractère violent. L'adjectif violentus, violent, emporté, tyrannique, et surtout le verbe violare, qui a un sens plus large et intéressant. Faire violence à une personne, dévaster un territoire, profaner un culte, outrager une autorité, transgresser une loi, souiller une chose, porter atteinte à une réputation, déshonorer une jeune fille, manière euphémisée de désigner le viol. Ce qu'on peut retenir de ces énumérations de signification, c'est qu'en grec comme en latin, le sens premier de biad et de vis relève de la physique, au sens scientifique. C'est la force du vent, de la tempête, du courant, du feu. Et la philosophe Hélène Frappa, dans son anthologie de la violence, relève qu'avec la physique d'Aristote, je la cite, c'est la nature qui donne sens, orientation et finalité à la violence, dans la mesure où celle-ci se caractérise par le fait qu'elle va contre la nature. Appliqué à l'être humain, le mot dans les deux langues conserve cette dimension dynamique d'exercice de la force, mais il l'élargit de trois façons. D'abord comme excès ou abus de son usage, dans le fait d'agresser, de détruire. Ensuite comme infraction à la norme, par la profanation, la transgression. Et enfin, comme contravention à la morale, par l'outrage, la souillure, la flétrissure. Alors, en ancien français, le mot « violence » dérivé de « violentia » est mentionné pour la première fois en 1215, mais il demeure rarement employé au cours de la période médiévale, sauf pour caractériser le viol. Jusqu'au XIXe siècle, le dictionnaire lui donne deux sens principaux qui renvoient à la force des éléments et des affects, pour l'un, et qui indiquent une violation du droit et des lois, pour l'autre. Plus détaillé, dans son édition de 1874, le Littré fournit quatre sens, illustrés entre autres de vers de Racine et de Corneille et de citations de Pascal et de Buffon. Premièrement, c'est la qualité de ce qui agit avec force, se rapportant au vent ou au feu, mais aussi aux passions et aux désirs. Deuxièmement, emportement, irascibilité, définissant ainsi un trait de caractère. Troisièmement, force dont on use contre quelqu'un, contre les lois, contre la liberté publique, au propre et dans les coups portés, comme au figuré dans la dénaturation de l'esprit d'un texte. Quatrièmement, enfin, contrainte exercée sur une personne pour la forcer à s'obliger, autrement dit, lui imposer quelque chose. On retrouve là les dimensions physiques, psychologiques, légales et morales de la violence qui renoue au fond avec la richesse sémantique du latin violare. Trois points méritent ici l'attention. D'abord, vient toujours en premier la forme abstraite de la violence comme ce qui met en mouvement des éléments ou des affects, héritage des significations d'Antiquité. Ensuite, la violence exercée sur les corps n'est mentionnée qu'assez secondairement, au même titre que le détournement du sens d'un document. Enfin, apparaît dans la dernière définition ce que l'auteur de l'article appelle « violence morale » qui deviendra plus tard en droit d'une importance croissante. Si l'on en revient pour finir à un corpus contemporain, le Robert, dans son édition de 1876, inverse l'ordre des définitions qui avaient prévalu depuis l'Antiquité. Le premier sens qui est indiqué est le fait d'agir sur quelqu'un ou de le faire agir contre sa volonté en employant la force ou l'intimidation, et donc la contrainte, l'oppression, la torture. Le deuxième, c'est l'acte par lequel s'exerce la violence sous la forme de représailles, de sévices, de répression. La troisième est la disposition naturelle à l'expression brutale des sentiments, à savoir la véhémence, l'animosité, la démesure. Le quatrième, c'est la force irrésistible, néfaste ou dangereuse d'une chose, telle un ouragan, un venin, un désir. Le cinquième, enfin, c'est le caractère brutal appliqué à un procédé, une diatribe, une scène. Désormais donc, ce sont les relations entre les êtres humains qui dominent, pour la première fois, les définitions de la violence, et non plus les éléments naturels, avec un nouvel ordonnancement, d'abord l'imposition d'une action contre la volonté de la personne, puis l'exercice concret de l'abus de l'usage de la force, ensuite les traits de tempérament de la personne, et enfin les caractéristiques concernant la nature, les affects, les choses. Ce cheminement, un peu fastidieux, j'en conviens, dans des dictionnaires sur des langues anciennes et modernes, a permis d'arpenter plus de deux millénaires de signification de la violence et de constater que le sens que l'on donne aujourd'hui à ce mot, s'il puise dans une riche étymologie, n'en est pas moins assez récent. Au cours de la période contemporaine, il s'est éloigné de la physique pour se rapprocher de la morale et il a relégué au second plan les forces de la nature pour mettre en avant les contraintes et les brutalités exercées par les êtres humains. Cependant, sur les deux grandes questions débattues dans les sciences sociales, d'une part la difficulté de constituer un objet cohérent sur lequel les protagonistes impliqués comme acteurs ou observateurs de la violence pourraient partager une perspective commune, c'est la question des anthropologues, et d'autre part l'extension du domaine de la violence conduisant à l'aborder à l'échelle non plus des individus et des groupes, mais de toute la société, comme structurelle ou symbolique, c'est la question des sociologues, la sémantique donc n'apporte pas de solution. La philologie comparée enrichit mais complexifie encore cette discussion. Une littérature substantielle s'est en effet attachée à convoquer la terminologie allemande dans ce domaine, car c'est dans cette langue que nombre de grands textes de philosophie politique ont été écrits. Le mot qu'en français on traduit généralement par violence et en anglais violence est Gewalt. C'est celui qu'on trouve dans la fameuse formule de Weber caractérisant l'État dans la politique comme vocation, le monopole de l'exercice légitime de la violence, das Monopol legitimer Gewalt Einsamkeit. Or, Gewalt a un sens plus large que violence et signifie également force. C'est d'ailleurs ainsi que dans le Capital de Marx, on traduit généralement le mot lorsqu'il s'agit de décrire le phénomène d'accumulation primitive dans l'histoire du capitalisme. L'hésitation entre les deux termes, violence et force, pour la traduction, est également présente aussi bien dans la traduction de la philosophie du droit de Hegel, où Gewalt peut être rendu soit par violence, soit par force, et même dans la notion de politique de Carl Schmitt, dont la version anglaise devient répression et pouvoir. Cette discussion lexicale est tout sauf anecdotique. Quels moyens avons-nous de reconnaître la violence lorsqu'elle est dissimulée dans les institutions et occultée par les revendications de légitimité, demande le philosophe britannique de l'université de Penn State, Robert Bernasconi. Car parler d'usage de la force ou d'exercice de la violence n'est pas indifférent. Et par exemple, dans le droit français, la police est autorisée à employer la force lors d'une interpellation, par exemple, mais non la violence, entendue comme l'utilisation injustifiée lorsque la personne est menottée, ou disproportionnée lorsque sont provoquées des violences, des blessures graves. Cas dans lesquels une condamnation peut être prononcée, rarement, il est vrai, par les tribunaux. L'une des plus grandes entreprises historiographiques du XXe siècle a été les Geschichtliche Grundbegriffe, les concepts historiques fondamentaux, projet en 9 volumes, conduit pendant 25 ans par Reinhard Koselleck, avec Otto Brunner et Werner Kuhse, et qui consiste en la constitution d'un dictionnaire des transformations du langage politique et social. L'entrée Macht, Gewalt, a récemment été traduite en français par Elisabeth Kaufmann sous le titre « Puissance et pouvoir ». Et l'on voit d'emblée une nouvelle interprétation de Gewalt qui devient « pouvoir » et non plus « force ou violence ». La traductrice explique ainsi les difficultés auxquelles elle était confrontée puisque « Macht » signifie à la fois « pouvoir » au sens de « pouvoir faire » et « puissance » comme dans la référence aux « grandes puissances ». Tandis que Gewalt présente lui aussi une double valence correspondant également au pouvoir, au sens des pouvoirs publics, d'une part, et à la force ou même à la violence, d'autre part. Ces difficultés sont du reste accrues du fait des évolutions sémantiques au cours du temps. C'est la raison pour laquelle Hannah Arendt s'est efforcée d'apporter une clarification dans son texte intitulé « On Violence », qui est souvent cité. Selon elle, je la cite, « power » correspond à la possibilité non seulement d'agir, mais d'agir de concert, car il ne relève pas de l'individu, mais du groupe. Strength, c'est la propriété inhérente d'une chose ou d'une personne. Force indique l'énergie libérée par des mouvements physiques ou sociaux. Authority est la reconnaissance inconditionnelle par ceux auxquels il est demandé d'obéir sans qu'il soit besoin de coercition ou de persuasion. Et violence, enfin, se distingue par son caractère instrumental. Ainsi, selon elle, Macht serait le pouvoir et Gewalt de la violence. À suivre ainsi les méandres de ces discussions, on conçoit que le dictionnaire des intraduisibles, dirigé par la philosophe Barbara Cassin, figure l'entrée Macht-Gewalt. La philologie comparée montre ainsi qu'au-delà des questions posées par les sciences sociales sur l'objet et le périmètre de la violence, la définition même du mot et sa traduction pose problème, variant non seulement d'une période à l'autre, d'un usage à un autre, mais aussi d'une autrice ou d'un auteur à un autre. Pour conclure, au terme de ce parcours de l'anthropologie et de la sociologie à l'étymologie et à la philologie, de la caractérisation d'un objet à la recherche d'une signification, on peut se sentir troublé, voire désemparé, car de quoi parle-t-on quand on parle de la violence ? Alors que le sens du mot semble aller de soi, lorsqu'on l'utilise dans le langage courant, on voit que dès lors qu'on s'efforce de le circonscrire, il se délite et se démultiplie. Faut-il en concevoir une déception, peut-être même un découragement ? Bien au contraire, il est souvent bien plus intéressant et surtout plus utile de problématiser une notion ou un concept que de le définir, autrement dit, d'ouvrir à des questions plutôt que d'enfermer dans une convention. C'est pourquoi, renonçant à la quête d'une définition, le titre de cette leçon, j'ai préféré cette enquête autour d'une définition.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.